Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Aujourd'hui, on va parler du monde qui fait cavalier seul et qui fait un deal avec OpenAI. On a l'AI Act qui est voté en Europe. Et on a le ban de TikTok qui avance aux États-Unis. Tout ça et plus, c'est dans le Rendez-vous Tech tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. C'est l'épisode numéro combien ? Il faut que je vérifie 557 et nous sommes en mars 2024. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Exceptionnellement, on fait un live un lundi après-midi, ce qui fait qu'il y a des gens qui nous regardent peut-être, qui ne nous ont jamais regardés, quasiment incroyable. C'est parce qu'on on est le lundi après-midi, vous le savez si vous êtes assidu de l'émission, quand on fait l'émission avec Jeff qui nous rejoint de la Silicon Valley. Et comme il adore pas se lever à 1h du mat ou 2h du mat, eh ben on l'accommode en faisant une émission à un autre moment. Jeff, bonjour, comment vas-tu ?
Est-ce que je suis en forme ? Ça va très bien, je suis en forme. J'apprécie que vous faites l'enregistrement à 1h décente pour moi, parce que bon, je t'adore, mais 1h du matin, non.
Franchement, je pense qu'il faudrait genre, je sais pas, une fois par mois, une fois par an, que tu fasses un effort et que tu fasses l'épisode au milieu de la nuit. Et comme ça, tu vois, ça serait un épisode drôle, genre un truc marrant, tu vois. Non, t'es pas
trop... Non. Non, je te contre-propose, c'est le jour où on se retrouve par hasard à Paris tous les deux, et bah à ce moment-là, on fait un live à ce moment-là.
Contre Kems, très bien, écoute, je suis partant, moi je suis pour, ça me convient.
Super.
On fera ça le jour où on se retrouvera par hasard à Paris. J'espère que ce jour-là, Marion sera avec nous. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, figurez-vous qu'elle est en vacances. Et donc, elle n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais on va essayer de faire...
Elle n'enregistre pas à l'RDV pendant ses vacances ? Comme si elle
avait
des choses plus importantes à faire ?
Je suspecte que ça soit Jérôme qui lui tu vois, moi je lui ai proposé, elle était super partante et Jérôme lui a dit écoute, nous sommes en vacances, non,
sinon
je demande le divorce. Bon, ils sont pas mariés, mais voilà, elle pense, je sais qu'il pense qu'il est très comme ça contrôlateur et que il pense qu'elle passe trop de temps avec le Rendez-vous Tech, donc je comprends, mais non, elle n'est pas là, on plaisante bien sûr, elle n'est pas là, mais
on fait la bise à Marion.
Qui, et oui, on lui envoie des bises et on envoie des bises à Jérôme Messi aussi. Vous savez qui est là ? Eh bien, dans les Patreons, dans les Patriotes, il y a Youssef Belkacemi qui a rejoint le Patreon du Rendez-vous Tech. Merci beaucoup à lui et également Peter Rigal et Olivier Maury qui sont les producteurs du Rendez-vous Tech d'aujourd'hui. Donc, un grand merci à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech et en particulier à Youssef et Peter et Olivier. Merci, merci à vous tous. Si vous souhaitez soutenir l'émission, vous aussi, vous pouvez le faire sur patreon.com/rdvtech et avoir des trucs incroyables, des bonus de fou. Je pense que je vais faire l'after show aujourd'hui sur les newsletters, les questions de trafic, la différence entre le trafic et l'audience qui sont très discutées en ce moment dans les domaines du web et les newsletters. On en parlait sur le Discord tout à l'heure dans l'après-midi et il y a des gens qui ne savaient pas pourquoi il y avait tellement de newsletters en ce moment. Ben, je pense que je vais en parler un petit peu dans l'after show. Donc ça sera réservé aux Patreons, aux Patriotes qui soutiennent l'émission. Donc, si vous êtes Patriote, look forward, please look forward, comme on dit dans les Nintendo Direct. Ça sera après l'émission classique. Et comme je suis dans le mini studio en ce moment, il n'y a pas les jingles. Donc, juste pour cette semaine, on va enchaîner sans les jingles, ou peut-être que je peux les faire. Comment il fait déjà le jingle des trois grosses infos à retenir d'aujourd'hui ? Je ne sais plus, de la semaine. J'ai même oublié comment il fait. C'est la concentration totale sur l'animation juste maintenant. Donc, le jingle pour les infos à retenir cette semaine. Première info à retenir, c'est un accord assez exceptionnel qui est passé entre le monde et OpenAI, qui vise à autoriser la société d'IA à faire deux choses avec les articles et le contenu du journal Le Monde. D'une part, ils peuvent inclure les contenus du Monde dans les données d'entraînement de leurs IA, ce qui est important parce que, bien sûr, ces données sont essentielles pour façonner ce qui va devenir le chatbot ou les autres produits d'IA proposés par OpenAI. On sait que ChatGPT est immensément populaire. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant assez de sources vraiment fiables pour entraîner de documents établis pour entraîner leurs IA. Donc, le fait de pouvoir disposer de tout le contenu du Monde est important, de tout le contenu du journal Le Monde, évidemment, est important. L'autre chose, c'est que OpenAI utilisera dans les réponses qu'ils vont donner, donc dans ChatGPT, des articles du Monde qui peuvent être récents, qui ne seront pas inclus au corpus d'entraînement de l'IA et qui seront donc d'actualité. Et il pourra donc utiliser ces réponses plus normalement parce que, vous le savez, cet accord donc qui compense financièrement le Monde, hein, on l'imagine bien, est un accord qui, est, qui autorise la société d'IA à utiliser le contenu, là où, depuis l'avènement de ChatGPT, c'était une question extrêmement importante. Comment est-ce que l'IA va gérer les contenus qui sont soumis aux droits d'auteur, le contenu de la presse, etc. Et beaucoup de sites de presse avaient décidé de ne pas autoriser les moteurs d'IA à utiliser leur contenu. Il y a l'équivalent des robots.txt pour interdire aux moteurs de recherche d'indexer le contenu. Bah, il y a l'équivalent pour l'IA. Et la plupart des sites de presse avaient demandé donc aux moteurs d'IA et aux entraînements d'IA de ne pas intégrer les contenus de la presse pour pouvoir négocier justement. Donc OpenAI est allé voir différents sites de presse dans différents pays, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Espagne et c'est le cas en France avec Le Monde pour négocier des droits, ce qui était ce que voulait la presse. Donc tout va bien, c'est formidable, c'est merveilleux, tout le monde est content, me direz-vous. Eh bien pas forcément. Pas forcément, pourquoi ? Parce que Le Monde, évidemment, ils ont négocié un deal qui leur convient, on imagine, et qui les met à l'avant de cette question des négociations et des droits. Mais le reste de la presse française n'est pas forcément super satisfaite de ce deal. Puisque, une fois de plus, c'est un petit peu une tradition avec Le Monde. Il y a un accord bilatéral entre Le Monde et un partenaire, en l'occurrence pour l'IA, mais du coup, il n'y a pas eu une négociation qui inclut l'ensemble de la presse française qui aurait pu négocier de manière un petit peu différente, peut-être avec un peu plus de force, et appliquer les accords et les conventions et les tarifs à l'ensemble des acteurs des médias et de la presse en France, y compris peut-être les plus faibles ou ceux qui ont un peu moins d'audience, qui n'ont plus du coup la force de frappe du journal Le Monde, et même d'autres sites de presse en France sont dans une position affaiblie pour négocier ensuite un deal avec OpenAI. Puisque maintenant, OpenAI a un accord avec un site de presse connu, fiable, établi pour proposer du contenu en français, et bien évidemment, un autre comme, j'en sais rien, Le Parisien ou Le Figaro, et bien OpenAI a beaucoup moins besoin d'eux. Donc s'ils s'étaient réunis, s'ils avaient fait tout ça ensemble, et bien ils auraient pu négocier quelque chose qui bénéficie à tout le monde. Là, Le Monde est allé faire cavalier seul. Et j'imagine, il ne s'exprime pas trop, j'ai pas vu beaucoup de réactions à cet accord dans la presse française, mais j'imagine que ça grince pas mal des dents dans les autres rédactions, parce que bah, Le Monde y est allé tout seul, a trouvé le deal qui les avantage, mais qui n'avantage pas forcément le reste de la presse. Donc, évidemment, c'est un deal bénéfique pour Le Monde, Qu'est-ce que tu penses, Jeff, de cette histoire? C'est un petit peu, bon, bah, c'est la vie, hein, tu négocies, tu négocies. C'est quand même un petit coup de Trafalgar qu'ils ont fait, le Monde, là, j'ai l'impression.
Je sais pas. Est-ce qu'il y avait déjà un précédent en France où ils avaient négocié en bloc avec Google ou Facebook, un truc comme ça? Parce que si c'est le cas, éventuellement, mais autrement, tu négocies ton intérêt commercial en fonction de ta puissance, le Monde. Est-ce que c'est le plus gros truc de médias en France, ou est-ce qu'il y a d'autres journaux qui sont plus gros?
Site de presse, j'imagine que ça se tire la bourre entre le Monde et le Figaro. Le plus gros média, non, certainement pas, il y a la télé à côté, mais au niveau de la presse, la presse. J'imagine que c'est le Monde ou le Figaro, ils se tirent un petit peu la bourre, je pense.
Donc, tu tires parti de ta position sur le marché, tu fais la négociation qui fonctionne pour toi, ça peut devenir un accord cadre, parce qu'après, ils peuvent aller au Figaro et dire, on vous offre la même chose, sauf s'ils considèrent que tu vas trouver tout ce que tu veux sur le Monde, et donc après tu vas rajouter des publications plus verticales. Mais c'est un peu... pour moi, ça ne me choque pas. Hein. Je suis pour la libre entreprise, donc ça me...
Ça ne surprendra c'est pas, personne c'est, depuis la Silicon Valley, oui.
C'est absolument pas. Et puis,
Je suis, comme je l'ai exprimé dans ma petite explication au départ, un petit peu plus mitigé, parce que c'est sûr que ça aurait été plus cool pour tout le monde de négocier ensemble. Mais là, évidemment que pour...
Imagine un merdier pour essayer d'aligner tout le monde sur ce genre de négociation. C'est monstrueux, quoi.
Et peut-être qu'ils ont essayé, on ne sait pas. On n'est pas dans les discussions d'arrière-boutique. Nous, ça se trouve, ils ont essayé et les autres traînaient des pieds. Et donc, le Monde a dit, on s'en fout, on va y aller. C'est possible, hein. Je spécule possible, beaucoup dans ce que je dis. Mais ce qui est certain, c'est que du coup, évidemment qu'OpenAI gagnerait à avoir la possibilité d'utiliser le contenu. On va prendre un exemple simple, hein, du Figaro aussi, pour avoir... un média, un journal de gauche et plutôt à gauche et un journal plutôt à droite. Mais le Figaro, du coup, aura plus de mal. Et oui, OpenAI aurait un intérêt à avoir les deux, mais ils n'ont plus un besoin impérieux d'avoir un grand média, un grand site de presse français. Donc, peut-être qu'ils vont dire, on peut vous faire le même deal que le Monde. J'imagine que tout ça est confidentiel. Mais s'ils peuvent payer moins, ou alors peut-être que c'est suffisamment peanuts pour qu'ils disent « Ok, on vous donne la même chose, on s'en fout, on verra. » Mais j'ai l'impression que c'est vu de manière un petit peu... c'est vu un petit peu comme « ils font cavalier seul » dans la presse française, mais peut-être que c'est qu'une impression, c'est possible.
Sauf qu'ils ont besoin d'une information non biaisée. Et donc, si jamais tu as une tendance trop à droite, tu as besoin en fait de balancer avec une tendance à gauche de manière à ce que... La donnée soit équilibrée. C'est le gros problème qu'on continue à discuter ici, c'est quelle est la source de la vérité, quote unquote, parce que quand tu vois en fait ce qui se passe aux États-Unis entre la droite et la gauche, c'est littéralement c'est n'importe quoi. C'est d'un côté, t'as à peu près la vérité, de l'autre côté, c'est une fabrication complète. Et évidemment, moi je vois ça parce que j'ai mon propre biais, mais c'est abominable, quoi.
Non, disons qu'aux États-Unis, effectivement, la binarisation de la vie politique est autrement plus forte, y compris dans les médias traditionnels qu'en France, même si elle existe et elle se propage ici aussi. Et peut-être qu'effectivement, OpenAI aura à cœur d'avoir des tendances différentes dans les pays européens aussi, donc peut-être que tout le monde pourra en bénéficier. Moi, j'ai l'impression quand même que ça affaiblit les positions de négociation des autres, mais bon, on verra comment ça évolue. Ce qu'il faut noter quand même, j'insiste sur cette histoire de qui a tiré en premier, machin. Ce qu'il faut noter quand même, c'est que OpenAI est du coup en train de se constituer des accords avec différents médias dans différents pays. Alors, on a parlé de l'Allemagne et de l'Espagne. J'imagine que tout le monde va y passer. Et y passer, c'est pas forcément le terme approprié, puisque la plupart des pays et des sites de presse ont bloqué l'intégration d'OpenAI pour négocier. Et OpenAI est en train de négocier et de payer donc pour les contenus, ce qui est exactement ce que souhaitaient les journalistes dans le cadre de ce type d'utilisation de l'IA. Donc c'est bien, j'ai l'impression quand même que tout le monde s'y retrouve, et du coup OpenAI et ChatGPT vont avoir beaucoup plus de légitimité, pas une légitimité absolue, mais beaucoup plus de légitimité sur ce type de contenu et sur l'information, qu'elle soit d'archives ou d'actualité, avec tous ces contenus. Alors après, on peut discuter de la nature des contenus, notamment en Allemagne, qu'ils obtiendront, mais il n'empêche, ils ont du contenu qui vient de sources relativement légitimes. Donc ça, c'est bien pour eux, pour leurs IA surtout, et pour les outils qu'ils fabriquent avec leurs IA.
Ce qui veut dire qu'Anthropic va devoir faire la même chose, ce qui veut dire qu'il y aura d'autres négociations possibles. C'est pas, il y a OpenAI, il y a le reste de tous les LLMs qui auront probablement besoin de faire les mêmes négociations, puisqu'il y a eu pas mal de, il y a 6 mois, 12 mois, il y a eu des procès qui ont été faits par des fournisseurs de contenu, par des artistes qui ont attaqué OpenAI ou les autres LLMs, et si je me rappelle bien, tous ces cas-là ont été rejetés sous le... en fait, c'est du fair use, quoi, donc c'est permis.
Il y en a beaucoup qui ont été rejetés. Le procès du New York Times est encore en cours de validation ou en cours. Donc celui-là, c'est un gros procès qui est spécifiquement contre OpenAI et qui est encore en cours. Mais on peut imaginer que ça se soldera par un accord aussi. Et oui, effectivement, comme tu le dis, il y a d'autres moteurs d'IA qui risquent de venir négocier avec tout le monde aussi. Donc ça peut devenir des sources de revenus significatives pour les sites de presse légitimes, ou non peut-être d'ailleurs, mais en tout cas légitimes. Et du coup, c'est un modèle de revenus qui vient s'ajouter à d'autres revenus, qui peut, alors on n'a pas les détails de l'accord, mais qui peut du coup constituer une compensation acceptable ou pas, on verra, il appartient à chaque société d'estimer ça, pour l'utilisation de leur contenu, là où l'IA faisait très très peur pour ça justement. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose dans l'ensemble.
T'as un point de données, donc Reddit... ils vont faire leur IPO cette semaine.
On va en reparler.
Et ils ont annoncé donc qu'ils avaient touché 66 millions, je crois, pour licencier Google, leur contenu à Google. Bon, donc c'est, on sait pas ce que ça veut dire, on sait pas ce que ça représente, mais ça donne une espèce d'échelle. Alors la question, c'est est-ce que c'est basé sur la taille de l'information qui est accessible, parce que Reddit c'est monstrueux par rapport à un truc comme Le Monde. Donc ça donne juste une idée, quoi.
Effectivement, Reddit a une importance stratégique pour Google, puisque beaucoup de leur contenu alimente les résultats avec du contenu véritablement écrit par des humains. C'est le cas de Reddit encore jusqu'à maintenant. Et on en a parlé à de nombreuses reprises. C'est salutaire dans des résultats de recherche qui sont noyés sous les sites artificiels optimisés SEO que Google fait remonter. Et souvent, on va aller chercher spécifiquement les contenus Reddit. Donc Reddit est très important pour Google. Maintenant, on ne sait pas dans quelle mesure ça s'étend à d'autres, mais oui, on peut tout à fait imaginer que Le Monde et d'autres sites de presse signent avec Anthropic, Google, Apple, pourquoi pas, etc. Donc, bon, on passe à la deuxième news qui me paraît importante à traiter cette semaine, c'est le vote de l'AI Act au Parlement européen. Alors, qu'est-ce que c'est que l'AI Act, la loi sur l'IA? C'est une loi qui a été initiée il y a un bon moment, je crois que c'était 2020, quelque chose comme ça, en tout cas avant l'explosion des IA génératives de 2022. Donc elle a commencé à la base pour essayer d'encadrer un petit peu les usages de l'IA perçus à ce moment-là. Et puis on y a rajouté ensuite, évidemment, puisqu'elle était en cours, des choses qui concernaient différents types d'IA, y compris les IA génératives comme ChatGPT, Midjourney, etc. Donc texte, chatbot et images. Et donc, ce qu'il faut comprendre pour cette loi, c'est que c'est une loi qui vise à essayer de classifier les différents types d'IA en différentes catégories et d'imposer des contraintes plus ou moins fortes en fonction de ces catégories. C'est-à-dire que les catégories sont classifiées en fonction des risques qui lui sont associés. Il y a des catégories qui ont des risques inacceptables et donc qui sont interdits. Il y a des catégories qui ont des risques importants et donc qui sont très régulées. Il y a des catégories qui ont des risques moindres et donc qui sont moins régulées, etc., etc. Des risques inacceptables, c'est des choses comme, par exemple, la reconnaissance, le social scoring, par exemple, le fait de faire par IA de la détermination de la qualité d'une personne ou de leur crédit ou ce genre de choses, le fait de reconnaître l'émotion, les émotions à l'école ou au travail, des systèmes qui sont censés influencer le comportement des gens, etc., etc. Ça, c'est interdit et c'est dans la loi, du coup, maintenant, spécifiquement pour l'IA. Il y a des exemples de systèmes qui sont autorisés mais considérés comme à risque élevé, comme des systèmes qui sont appliqués aux infrastructures critiques, à l'éducation, à la formation, des choses comme les règlements de police et de surveillance. Ça, c'est pas interdit, mais c'est soumis à des contraintes extrêmement importantes qui régulent la manière dont on peut les implémenter. Et puis il y a des choses qui sont, par exemple, qui concernent la transparence des systèmes d'IA, des systèmes qui vont être soumis à des obligations sur la nature des contenus sur lesquels ils sont entraînés, il y a des questions de copyright, etc., etc. Donc, tout ça, c'est l'idée de la loi, c'est de mettre des garde-fous sur l'utilisation de l'IA. Certains diront que ça va quand même très vite pour la régulation, alors qu'on n'est pas tout à fait sûr de ce que peut faire et de la manière dont va être utilisée l'IA. C'est peut-être pas faux, mais en même temps, on constate que la vitesse de déploiement des IA et des systèmes d'IA dans notre quotidien se fait de manière extrêmement accélérée par rapport aux autres technologies qui ont été implémentées au cours des 10, 20, 30, 50 dernières années. Donc peut-être que établir un cadre n'est pas forcément illégitime. Il n'empêche, il y a des voix qui se sont fait entendre, notamment en France, celle d'Emmanuel Macron, pour dire ce type de loi risque d'être dommageable à l'écosystème et à l'économie, puisque de peur d'avoir des contraintes légales, réglementaires, régulatoires, certaines boîtes pourront décider de ne pas s'implémenter dans l'Union européenne, des startups qui ne seront pas établies sur le territoire, peut-être même des investissements qui ne se feraient pas justement par crainte du ralentissement qu'imposerait ce type de législation, et que certains se diront au niveau de l'investissement, moi je vais aller investir par exemple aux États-Unis où il y a moins de régulation et donc on a plus de chances de pouvoir se lancer, de naître pour une startup. Évidemment, les États-Unis ont aussi proposé aux Nations Unies de pousser des régulations et de la législation sur l'IA. Donc, tous les pays commencent à s'y intéresser. Il n'empêche, dans l'Union européenne, c'est une législation qui est votée par le Parlement, qui va encore subir des petites modifications et puis entrer en application dans les mois et les années à venir. On parle de 6, 12, 18 mois. Donc, on n'y est pas encore. Mais ce genre de questions se posent également. Je pense que les deux peuvent être vrais. Toi, Jeff, tu es dans le monde de l'investissement. Cette idée qu'on se dise, le AI Act, il y a des trucs qui s'appliquent, peut-être, oui, non, mais de toute façon, autant aller dans des pays où il y a moins de législation, ça sera moins contraignant pour des startups qui sont en train de se découvrir. Est-ce que ça te semble une crainte légitime ou est-ce que, il y a des pépites, peut-être, on pense à Mistral, bien sûr, en France, ou d'autres, il y a beaucoup de connaissances au niveau académique en France. Est-ce que toi, tu te dirais non quand même, quand il y a à investir, il y a à investir. Qu'est-ce que tu en penses ?
Je pense que c'est compliqué parce que d'un côté, il faut avoir des garde-fous autour de l'AI pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Le problème, c'est que on est encore en train de développer, de déployer la version 0.1 ou 0.15 ou 0.2 de la technologie, ça va extrêmement vite. Comme tu le disais, les progrès qui sont faits tous les 3 mois, tous les 6 mois sont incroyables par rapport à tout ce qu'on a pu voir. Moi, ça fait 24 ans que je fais de l'investissement. Ça fait 35 ans que je fais de la tech, et la vitesse en fait à laquelle les progrès se font, et j'ai jamais vu ça. Donc, le problème de commencer à mettre des garde-fous super précis à l'européenne, comme tu l'as décrit, ça me paraît dangereux, parce que de toute façon, c'est a priori, parce qu'on n'a pas encore eu les cas à légiférer pour dire, on a eu ce problème-là, voilà, on va mettre ce garde-fou. Et effectivement, en tant qu'investisseur, j'entends ça, c'est de la connerie en barre. Je veux dire, ça va complètement gripper l'écosystème IA en Europe, parce que tu vas devoir, en fait, jouer avec toute cette régulation. Il va falloir que tu tournes à droite, tu tournes à gauche, tu évites un truc, tu évites un autre truc. Alors que aux États-Unis, en Chine, etc., c'est-à-dire, tu crois que les Chinois vont s'embêter avec toutes ces conneries. Donc, c'est un peu la problématique. Et aujourd'hui, il y a une vraie réflexion de comment est-ce qu'on garde, on évite que l'AI nous... qu'on se retrouve dans une situation à Terminator, où l'AI take over et fait péter toutes les bombes nucléaires.
Parce que, on va y arriver, j'ai une news bien cool juste après sur ça spécifiquement, tu vas voir, c'est assez intéressant. Mais pardon, continue.
Génial. Et donc... je suis pour les garde-fous, mais pas aussi précis, aussi détaillé, parce qu'il faut laisser l'innovation se faire et ensuite la réguler, plutôt que de faire ce truc a priori. Effectivement, de toute façon, il y a l'année dernière, 35% des investissements faits aux États-Unis sont allés vers les AI. Donc sur 170 milliards, t'imagines le montant, sur 170 milliards, donc 35%, donc une cinquantaine, soixantaine de milliards a été investi dans les AI. Deux boîtes ont reçu 17 milliards, Anthropic et OpenAI. Donc le niveau d'investissement ici est monstrueux. C'est pour ça, en fait, à la limite, on parle de San Francisco qui est en train de remonter en tant qu'écosystème parce que tout le monde est basé à San Francisco. Et tu vois, c'est les Européens, une fois de plus, se shootent se tirent dans le pied parce qu'ils mettent en place un système régulatoire qui est trop contraignant.
Moi, j'ai pas l'impression que ça soit si contraignant que ça, mais je le vois pas avec un œil d'investisseur. Mais en même temps, tu dis oui, ok, il faut mettre des garde-fous, mais pas ceux-là. Donc, parce que j'ai pas l'impression qu'ils y soient allés si fort que ça. Tu vois, il dit bon, il y a des trucs, on veut pas l'AI parce que c'est dangereux. On parle de, je les évoquais, hein, c'est des sujets qui, enfin, des domaines où effectivement, peut-être que c'est dangereux de l'avoir de l'AI. Mais oui, tu dis ok. Pour les garde-fous, c'est vrai que c'est peut-être nécessaire, mais quand on en met, tu dis « Ah oui, mais non, mais du coup, ça, c'est pas bien. » Donc, où on les met, les garde-fous ? Peut-être qu'on aurait dû, toi et moi, se plancher sur le truc et proposer à l'Union européenne et leur en proposer des biens. Mais t'es d'accord, c'est un peu antinomique, quoi. Tu dis « Ok, il faut des garde-fous, mais on y met des garde-fous et ça te satisfait pas. »
Je suis pour la notion de... En gros... Pour moi, c'est tu vois ce qui est faisable et tu légifères à ce moment-là plutôt que de mettre en place des trucs a priori.
Donc c'est trop tôt, quoi. Tu penses que là, ça vient trop tôt.
Ouais.
D'accord.
J'écoutais ta liste et il y a des trucs, tu vois, où on se dirait, à ce moment-là, on va pas aller investir là-bas, on va pas faire ceci, on va pas faire cela. Et c'est toute une question de... d'amélioration de services, parce que in fine, si tu as des économies qui ont des systèmes à base d'AI qui vont être de fait beaucoup plus compétitifs, sauf si tu interdis ces systèmes-là en Europe, et à ce moment-là, tu auras une économie à deux vitesses, tu as des implications qui sont monstrueuses. Et je pense que c'est trop tôt pour pouvoir comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément d'innovations, on a plein de boîtes qui sont en train de grossir très très rapidement en revenus parce que leurs produits sont achetés ils ont pas mal de succès, mais bon, c'est que le début, donc on sait pas encore quelle va être l'implication économique de ces systèmes. C'est quelque chose qu'on verra dans les 2, 3, 4, 5 ans.
Ouais. Garde-fou, oui, mais c'est peut-être un peu tôt. Je reprécise quand même que l'AI Act a commencé à naître il y a de ça 4 ans, je crois, 4-5 ans. Donc, à la base, on ne parlait pas spécifiquement de l'IA générative et on s'adresse, d'ailleurs, on le voit dans les domaines qui sont concernés, on s'adresse à des risques et des préoccupations qui existaient depuis plusieurs années. Donc, c'est pas qu'ils ont vu, j'insiste sur ce point, c'est pas qu'ils ont vu ChatGPT et Midjourney, ils se sont dit « Oh mon Dieu, oh là là, faut vite réguler ça !» Non, c'est pas ça. Certains domaines qui concernent ces outils-là ont été ajoutés parce qu'on avait un AI Act, mais c'est plutôt des domaines beaucoup plus vastes comme la surveillance par IA, le social scoring, comme je disais, des préoccupations qu'on avait, par exemple, qui adressent la question des biais dans la reconnaissance faciale ou ce genre de choses qui étaient des préoccupations qu'on avait depuis un bon moment. Bon, écoutez, on continuera à suivre ça, évidemment.
Bah, qu'est-ce qu'ils en disent, les mecs de Mistral ? Parce qu'ils sont en plein milieu, donc...
Je ne suis pas sûr qu'ils aient spécifiquement parlé de l'AI Act, mais bon, il faudrait peut-être aller leur demander à eux, effectivement. Mais bon, tu demandes à un parti qui est terriblement impliqué dans le truc, donc évidemment, si tu leur demandes à eux, je suis sûr qu'ils vont dire « Bah oui, c'est pas cool, ça nous limite, mais bon. » On en reparlera, je n'en doute pas. Et puis on nous dit dans la chatroom, le souci c'est qu'après c'est trop tard. Oui, bah, enfin oui et non. La question là c'est est-ce que c'est trop tôt ou trop tard ? Il faut choisir pile le bon moment. Je suis en train de regarder des animés en ce moment, tu vois, il y a le coup de sabre, il faut le donner pas trop tôt et pas trop tard. Donc tu fais.
Bah oui, c'est parce que ça va tellement vite.
Ouais, et viser le bon truc, c'est pas facile.
Non, c'est pas évident. C'est étant donné la vitesse à laquelle le progrès sont faits, c'est un énorme problème pour nous. Investisseurs, c'est de savoir en gros quels sont les endroits dans lesquels on peut aller mettre des dollars, parce qu'il y a des pans entiers qui semblent intéressants, et 6 mois plus tard, ChatGPT 4.0 ou 4.5 fait en gros ce que la boîte dans laquelle on investit fait, quoi.
Bon, écoute, on continuera à en discuter, évidemment. Troisième sujet que je voulais évoquer, c'est la suite du projet de loi américain sur le bannissement ou le divestissement de TikTok. Je fais un anglicisme. La loi dont on parlait il y a peu a été votée à la Chambre basse américaine, c'est-à-dire que cette loi vise à imposer à ByteDance, la société mère de TikTok qui est chinoise, de vendre TikTok à une société, alors je ne sais pas si c'est américaine spécifiquement, mais en tout cas qu'elle ne soit plus chinoise, ou alors s'ils ne le font pas, ils ont inscrit dans le texte de loi le fait de bannir TikTok du territoire américain. Donc elle ne serait plus disponible dans les App Store, supprimer des téléphones carrément, c'est ce genre de choses qu'on évoque, etc. Ça interviendrait 6 mois après le vote final de la loi, sachant que, une chose importante, la loi a été votée à la Chambre basse, il faut qu'elle passe au Sénat, et il n'est pas du tout certain qu'elle passe au Sénat. Donc, il est tout à fait possible qu'elle soit bloquée au Sénat. Si elle passe au Sénat, il faut ensuite qu'elle soit signée par le président de la République. Il a indiqué qu'il la signerait si elle passait les deux chambres. Donc, a priori, c'est vraiment le Sénat qui pourrait la bloquer ou non. Les responsables du Sénat ont indiqué qu'ils n'étaient pas sûrs de vouloir, Chuck Schumer notamment, indiqué qu'il n'était pas sûr de vouloir la voter. Il y a également le fait que dans une allée d'élections extrêmement importante, les Américains et les responsables politiques américains ne veulent pas forcément, d'une part, se couper de la base jeune qu'ils peuvent toucher avec TikTok, et d'autre part, ils ne veulent pas s'aliéner cette même base en leur enlevant leurs jouets. Mais d'un autre côté, eh ben, les préoccupations qu'on évoquait déjà la semaine dernière et depuis un bon moment, puisque vous vous souvenez que même le président Trump avait demandé le ban de TikTok avant aujourd'hui visiblement de changer d'avis parce que ça bénéficierait à YouTube et surtout Zuckerberg et qu'il est aujourd'hui plus pour le ban de TikTok. Accessoirement, il a
un de ses gros donneurs.
Qui a 15% de ByteDance, donc
voilà, il a un gros donneur qui lui a dit non, c'est mon argent, donc tu vas dire non. Et comme c'est Trump, puisqu'il a désespérément besoin d'argent. On dit qu'il a changé d'avis. Il a aussi le fait que TikTok est un média de dispersion des conneries républicaines. Donc, ils sont très actifs sur le médium. Et donc, ils considèrent que ce serait une perte d'un média intéressant pour eux. Et donc, ce sont, on pense, les deux raisons pour lesquelles Trump a changé d'avis.
Donc, la loi a passé la Chambre basse. Donc maintenant, il y a juste le Sénat. Et évidemment, ça ramène sur le tapis tout un tas de questions qu'on a déjà évoquées. Mais du coup, je vais te demander ton avis là-dessus. Ce que je dirais, c'est que... alors, TikTok a dit « Mon Dieu, vous ne vous rendez pas compte, vous allez retirer une activité économique énorme à tout un tas de créateurs, de business, de machin. » Ce qui est certainement vrai, hein, évidemment. Et puis, il y a des questions d'équité. Il y a, à vrai dire, une chose qui est importante. La Chine a déjà annoncé qu'elle ne laisserait pas ByteDance vendre TikTok. ByteDance est une société chinoise, donc il n'autoriserait pas la vente. Donc déjà, à partir de là, il n'est pas certain que la vente puisse se faire, donc ça pourrait imposer un bannissement à 180 jours, c'est-à-dire 6 mois après le vote. Et l'autre chose qu'on a beaucoup entendu, c'est « Ah mon Dieu, regardez, c'est injuste. Maintenant, on est en train de faire comme les Chinois. La Chine interdit les réseaux sociaux et contrôle Internet. Et ben voilà, on est en train de faire pareil. » Ce qui, pour moi, est un argument particulièrement spécieux parce que c'est du « whataboutism ». C'est genre « Ok, et t'as pensé à ça, ils font pareil ». Évidemment que non. Je veux dire, on peut mettre en avant tous les moyens de contrôle des États et d'extraction d'informations des États occidentaux d'Internet et des réseaux sociaux et de la manière dont ils peuvent utiliser les sociétés de leur propre pays, que ce soit aux États-Unis, en France ou dans le reste des pays occidentaux ou des grandes démocraties. Ça n'atteindra jamais un dixième ou un centième de ce qui se passe dans des pays comme la Chine ou d'autres. Où on n'a pas de presse libre. Enfin, quand il se passe quelque chose entre les États et des sociétés privées qui n'est pas particulièrement acceptable, il y a des journalistes qui peuvent enquêter, il y a de l'information qui est libre de circuler, etc. Enfin, je veux dire, je n'apprends rien à personne. Mais comparer l'environnement chinois et l'environnement même américain et dire « Ah bah regardez, ils sont en train de faire la même chose », Ça fait fi d'une évidence qui est tout à fait claire pour tout le monde, qui est que, quand on parle du gouvernement chinois et de ce qu'il pourrait faire avec TikTok, c'est pas la même chose que l'influence que peut avoir le gouvernement. Enfin, bon, bref, on l'a déjà dit, mais le gouvernement chinois a un contrôle quasi total sur les sociétés en question. Alors, TikTok n'est pas ByteDance. Mais ByteDance est une société chinoise. Donc, et c'est marrant parce qu'ils ont prouvé il y a une ou deux semaines que en envoyant des messages à tous leurs utilisateurs, ils avaient complètement surchargé les lignes téléphoniques des parlementaires américains en incitant les gens à envoyer des messages à leurs parlementaires. Et du coup, ils ont un petit peu prouvé, d'une certaine manière, leur influence sur la population en les poussant à avoir un agissement sur une décision politique. Alors oui, elle les concerne, cette décision politique, mais la décision politique est justement là parce qu'on craint que TikTok ait trop d'influence sur la jeunesse et la population en général. Et donc là, ils le prouvent, donc c'était un petit peu marrant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, vu des États-Unis ? C'est un rare moment où les deux parties se mettent d'accord pour faire un truc, pour des raisons peut-être un petit peu différentes. Mais qu'est-ce que tu en penses, vu des États-Unis, de toute cette histoire ? Pour, contre, c'est compliqué ? Qu'est-ce que tu dirais ou tu ferais ?
Je comprends pas trop pourquoi est-ce que Schumer a dit qu'il allait pas forcément faire voter sur la loi. C'est un peu bizarre, parce que, comme tu le dis, c'est super, ça n'arrive jamais dans notre monde bipolaire où les deux côtés sont d'accord sur un truc. Et donc, le fait que la chambre basse passe la loi alors que ce sont les républicains qui sont majoritaires de quelques voix, mais avec un gros soutien des démocrates, je vois pas pourquoi, et que Biden veut supporter la loi, je vois pas pourquoi Schumer a d'un seul coup décidé de pas le faire. Clairement, si aujourd'hui le problème que Biden a, c'est que il est un peu Il a désabusé pas mal de parties de son électorat, et donc s'il bannit TikTok, il va se mettre les jeunes gros utilisateurs de TikTok à dos, et donc ça c'est un risque pour lui, de la même façon que sa politique de soutien d'Israël avec Gaza, machin, lui a fait perdre sur le papier pas mal de son électorat. Et donc, il y a ce risque-là, mais d'un autre côté, je veux dire, faut pas se leurrer. On a trouvé, je crois, la semaine dernière ou il y a 15 jours, que les grues chinoises sont truffées de systèmes d'écoute espions. Et donc, qu'est-ce que tu crois que les Chinois font avec toutes les données qu'ils récupèrent sur le public américain et la capacité qu'ils ont à influencer l'élection, etc., etc. Donc, de la même façon qu'ils contrôlent les boîtes américaines font, je pense que c'est tout à fait raisonnable de dire bon bah TikTok, soit vous cassez, soit vous faites racheter par une boîte américaine. Il y a des Bobby Kotick, donc l'ancien patron d'Activision, est en train de monter un syndicat. Steve Mnuchin, l'ancien patron de la finance pour Trump, est en train de faire la même chose. Donc il y a un intérêt réel, parce que c'est quand même une grosse boîte, c'est pas forcément une boîte pour acheter TikTok, parce que ça va coûter une blinde. Hein. Et donc, parce que comme tu disais, c'est un gros vecteur économique, il y a beaucoup de créateurs qui utilisent TikTok comme un système de distribution, ils ont aussi Snapchat, ils ont aussi YouTube, ils ont aussi... Ils ont des alternatives.
À 40 milliards la valeur de TikTok sans l'algorithme et à 100 avec l'algorithme. Ça me paraît un peu beaucoup parce que l'algorithme, on a en gros compris comment il fonctionnait, mais pour la valeur de l'algorithme. Mais oui, c'est quand même 40 milliards, évidemment que c'est beaucoup, et 100 encore plus.
Donc, ça me semble raisonnable parce que si tu tiens pas la tête à la Chine, ils vont continuer. Et à un moment, il faut que ça s'arrête.
Bon, donc voilà pour TikTok, effectivement. On aurait beaucoup de choses à dire encore, mais...
Et puis moi, je m'en fous, je ne l'utilise même pas, donc...
Ouais. moi, je peux passer un petit peu de temps dessus quand même. D'ailleurs, je poste des petites vidéos d'extraits des émissions sur TikTok de temps en temps. Donc, mais bon... On en reparlera, je suis sûr, puisqu'on a la question du vote au Sénat qui est encore...
Et puis, de toute façon, la loi sera attaquée en... Même si la loi passe, c'est un truc qui va finir devant la Cour suprême.
Oui, on est d'accord. Et TikTok... Hein,
donc, c'est pas demain la veille.
Ouais, c'est pas demain la veille. Donc voilà pour les trois sujets que je voulais évoquer. Avant de passer à la suite, je voudrais vous rappeler que cette émission existe grâce à vous. Oui, vous le savez, je vais faire court. Patreon.com/rdvtech pour la soutenir. C'est le moyen de faire en sorte qu'elle continue, de moyen surtout de récompenser le travail qu'on fait ici. Donc si vous appréciez la manière dont on traite l'info, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Patreon, que ce soit maintenant tout de suite sur votre téléphone dans les transports ou quand vous arrivez à la maison. Vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling et là vous dites « Ah !» Patreon.com/RDVT. Kling, Patrick, vous le savez, bien sûr.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Y a pas de jingle. Donc, on enchaîne avec cette présentation de Figure 01. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit, Jeff? Non, tu pensais que j'allais faire plus longtemps sur Patreon. Alors, non, tu sais pas.
Je sais pas ce que c'est Figure Zero One.
Alors, Figure Zero One, c'est un robot. Un robot humanoïde qui est développé donc par la société Figure et qui s'est vu intégrer OpenAI, enfin les modèles de langage d'OpenAI, et qui du coup a des capacités motrices importantes. C'est un robot qui est un petit peu l'équivalent de ce qu'on voit chez... En gros, on nous montre dans la vidéo de présentation un robot qui a un buste, deux bras avec des mains et des doigts articulés et un visage. Sur le visage, enfin, une tête. Sur la tête, il a des capteurs qui font caméra, micro, etc. Et haut-parleur pour parler. Donc, en gros, c'est sans doute ce qu'on fait de plus proche d'un humain synthétique jusqu'à maintenant. Sauf que on a l'habitude de voir des robots qui sont relativement mobiles, mais on n'a pas beaucoup d'interactions avec eux. Et ben, intégrer OpenAI dans le robot, ça fait qu'il peut nous comprendre et surtout réagir en fonction de ce qu'on lui demande. Donc, ce qu'on voit dans la vidéo, je la mettrai dans la newsletter, hein, le lien vers la vidéo. Ce qu'on voit dans la vidéo, c'est un robot qui parle, enfin, qui écoute ce que lui dit son camarade humain. Il est devant une table sur laquelle il y a de la vaisselle, des petites choses, des pommes, des verres, un plateau, etc. Et donc, l'humain lui demande « Est-ce que tu peux me dire ce qui est bon, ce qu'il y a devant toi ?» Il lui dit « Alors, il y a tel et tel et tel truc, une pomme, un truc. Ah, ok, est-ce que tu peux me donner... j'ai un peu faim, est-ce que tu peux me donner un truc qui est bon pour la santé ?» Il lui donne la pomme en lui disant « Voilà, la pomme, c'est un bon... un fruit, c'est bon pour la santé. » Il dit « Ok, il y a un truc sur la droite, qu'est-ce que tu vois ?» « Ah, il y a un rack pour ranger la vaisselle pour qu'elle sèche. » « Ok, bon, bah vas-y, fais ce que tu devrais faire avec ce truc. » Et il prend la vaisselle qui est devant lui et il la range sur le rack, il la met comme il faut au bon endroit. Alors, deux choses à noter. Évidemment, c'est une démonstration qui a été pré-filmée, etc. Donc, on se doute bien que c'est la meilleure version possible de ce qu'on pourrait faire avec ces systèmes. Et on imagine bien qu'il a fait beaucoup de bêtises avant d'arriver à cette version de la vidéo. Par contre, ce qui est notable aussi, c'est qu'il est incroyablement dextre. Il a des doigts qui bougent bien, des mains qui bougent bien, il peut tenir des petites choses sans les abîmer. Donc, au niveau robotique, il est déjà impressionnant. Mais le plus impressionnant de tout ça, et c'est sur ça que j'aimerais attirer le plus votre attention vraiment dans cette vidéo, c'est pas tant ce que fait le robot tout court, c'est qu'il réussit à interpréter ce qu'il dit et ce qu'on lui dit avec les modèles de langage. Parce qu'une grande question que j'avais, moi, à l'avènement des modèles de langage, c'est, OK, il crée du texte, il comprend et il crée du texte en statistique. C'est-à-dire qu'on le sait, hein, un modèle de langage comme ChatGPT, il va dire quelque chose qui est la suite de mots statistiquement la plus probable par rapport à son entraînement. Et donc, en gros, il vomit des lettres. C'est un petit peu ça qui se passe. Il vomit des lettres et on ne savait pas, ou en tout cas, moi, je ne savais pas, si ces systèmes comprenaient ce qu'il disait ou simplement il pourrait vomir de l'arc-en-ciel, ça serait pareil. Et bien là, ce robot, il a une compréhension sémantique de ce qu'on lui demande. Il comprend qu'est-ce que tu as demandé, le contexte, qu'est-ce que tu as demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse, et il relie les mots aux éléments visuels et d'action qui sont devant lui. Ça, c'est hyper impressionnant, encore plus même que la dextérité du robot, ou même le fait qu'il y ait une intégration de OpenAI dans le robot, c'est le fait que le modèle comprenne et associe les mots à des objets qui sont posés devant lui. Ça m'a bluffé. Et bien sûr, ensuite, bah, on se retrouve avec, franchement, encore une fois, des mots préparés, etc. On n'est pas loin de Terminator, mais vraiment pas loin, là. Là, avec la compréhension, on n'est pas loin de Terminator. Est-ce que tu es prêt à investir dans Cyberdyne, Jeff, pour être épargné par nos maîtres robots plus tard ? C'est hyper impressionnant, ce truc.
Bah, ils ont déjà levé 754 millions de dollars, donc non, c'est pas pour moi. leur premier tour, c'était 70 millions. Donc de toute façon, moi, je joue pas là-dedans. J'ai du mal à investir dans une boîte qui lève plus de 5 ou 6 millions. Qui se font, c'est super impressionnant, c'est vrai, mais à partir du moment où tu utilises des modèles externes pour la partie compréhension, classification, etc., etc., le gros du boulot est fait. En fait, ce qui est impressionnant, c'est le fait que le robot va reconnaître son environnement et va être capable de connaître que c'est une pomme et qu'il faut qu'il aille prendre la pomme et la mettre dans une boîte. Donc la question, c'est... Parce que les robots, en fait, c'est, à ce jour, c'est de la préprogrammation. Donc tu vas, en fait, transformer les activités des robots de façon déterministique. Donc tu vas dire step 1, step 2, step 3, etc., etc. Et la nouvelle génération de robots, et c'est des choses que moi je regarde en tant que opportunité d'investissement, c'est des modèles qui sont des modèles de compréhension. Donc tu comprends ton environnement et puis tu sais que tu vas avoir quelque chose à prendre avec ta main, mais tu sais pas trop où c'est. Et en gros, c'est le système qui va reconnaître. Donc tu as la partie vision qui va reconnaître un objet. Après, ça va transmettre à la partie interaction les commandes qu'il faut. Et cette façon, beaucoup plus évoluée. Et donc ça, c'est très dur et ça, c'est très impressionnant. Je dirais juste que développer des robots comme ça, qui peuvent faire un peu tout et n'importe quoi, mais pas forcément des choses très précises, c'est toujours compliqué, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent, parce que par définition, un robot vertical qui est développé pour faire du pick and place dans l'e-commerce ou les robots de construction électronique, c'est moins compliqué, mais tu vas avoir en fait des nouveaux moteurs de gestion de ces robots qui sont en cours de développement, et je pense que c'est ceux-là que tu verras en place dans les 2 années qui viennent. Celui-là, il faut voir en gros comment, dans un environnement plus général, tu peux prendre ce truc-là et le mettre à faire quelque chose d'utile, quoi.
Oui, mais la démo, c'est parfait. C'est très impressionnant et c'est un petit peu les robots de science-fiction, quoi. Mais est-ce que ça sert à quelque chose ? C'est une autre question.
Quand tu vas commencer à voir ce genre de robot, tu vois, adopté par l'américaine et l'armée américaine, et où tu remplaces en gros les mains par des gatlings, là tu peux commencer à te poser des questions.
Oui, là on se et bon, je suis pas sûr que ça soit exactement efficace de cette manière, mais oui, c'est quelque chose de possible, évidemment. J'aimerais, avant que tu ne nous quittes parce que tu as des rendez-vous, qu'on parle un tout petit peu du dernier sujet. C'est l'entrée en bourse de Reddit qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure. On entend beaucoup que c'est une... alors, comment ça s'appelle ? Une down IPO ? Je ne sais plus si c'est le terme qui est utilisé, mais une entrée en bourse qui est modeste. C'est ça, c'est le down round IPO, c'est ça, et donc on vise, ouais, 5-6 milliards, quelque chose comme ça, au lieu des valuations démentielles qu'on a eues pendant très longtemps à plusieurs dizaines de milliards, et c'est visiblement accueilli avec bienveillance par les marchés, parce que c'est genre, ok, on revient à quelque chose de raisonnable, c'est ça. C'est comme ça qu'on voit l'entrée en bourse de Reddit en ce moment, par chez toi ?
Si tu veux, on est dans un environnement. En 2023, on a eu, entre les ventes de boîtes et les IPO, une des pires années depuis des 10 ou 12 dernières années. Donc on a eu très très peu de sorties et on a besoin, si tu veux, de comme on dit, prime the pump. On a besoin de relancer la machine des IPO.
La machine, ouais.
Et donc, avoir Reddit, qui est une... Je ne veux pas dire une belle boîte, parce qu'ils perdent du fric comme ce n'est pas permis, ce qui est quand même bizarre, vu leur niveau de revenu. Mais c'est une belle boîte, et on espère que l'IPO va bien faire dans le marché, et que c'est pas... On ne va pas se retrouver, tu vois... ils sortent à 6 milliards ou 7 milliards, et puis dans 15 jours, ils sont à 2, quoi. Donc, le fait que ce soit un down round, donc le down round, c'est quoi ? Ça veut dire que les derniers investisseurs privés qui ont mis de l'argent chez Reddit ont payé, je ne sais pas, 10, 12, 15 milliards de valorisation pour leur stock. Bah, malheureusement, ils ont fait un deal, ça date en 2021, donc tous les prix étaient débiles. À ce moment-là, les valorisations étaient super surchauffées. Et puis bah, aujourd'hui, on est dans un marché qui est plus raisonnable. Et encore, quand tu regardes les marchés américains, aujourd'hui, sont quasiment à leur all-time high, à leur plus haute valeur, plus haut niveau. En partie grâce à l'excitement autour de l'AI et de Nvidia, mais aussi parce que les Magnificent Seven, les sept plus grosses stocks tech, ont quand même bien performé, sauf Tesla. Et donc, c'est dans un environnement qui est assez propice et on espère que la boîte va le faire. Moi, je me foudrais dire, je ne vais pas acheter ce truc parce que je n'y crois pas. Investir dans le monde des médias ou du social media, tu peux te faire punir. Donc, je ne veux pas y toucher. Mais j'espère que ça va bien se passer parce que moi, j'ai deux, trois belles boîtes qui ont des revenus, des niveaux de revenus qui leur permettent d'aller public l'année prochaine. Et j'espère qu'il va y avoir suffisamment de soutien dans le marché pour que ça se passe. Et pour que ça se passe, il faut que Reddit et les quelques boîtes qui sont dans le pipeline sortent sur le marché. Bon, ils vont faire leur pop habituel, mais grosso modo, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, on regarde la valeur de l'IPO et c'est pas une catastrophe monstrueuse comme ça s'est passé sur l'année 2021 et début 2022 des SPAC. C'était un désastre parce que la plupart des boîtes se sont cassées la gueule et sont maintenant en bankrupt. Donc, on a besoin d'IPO qui se passe bien. Et donc, en tant qu'investisseur, il faut que tu saches quelle est la valeur raisonnable où tu vas investir. Et quand tu fais de l'investissement late stage, donc une fois que les boîtes sont bien développées, en gros, tu te dis, je vais payer cher, mais je pense que je vais pouvoir revendre plus cher. Et malheureusement, bien souvent, ce sont des décisions que tu regrettes parce que, en gros, tu as payé trop cher, quoi.
Et donc là, si ça se passe bien et qu'il y a Reddit et puis peut-être une ou deux autres boîtes ensuite qui font des entrées en bourse raisonnables, qui se maintiennent sur les 2-3 mois, tu penses que le marché reprend confiance et donc d'autres boîtes peuvent se lancer et on a une base plus raisonnable pour recommencer à faire...
pour tout relancer, voilà.
Ouais, d'accord.
Parce qu'en gros, aujourd'hui, les boîtes se disent « Bon, allez, je veux y aller, mais je ne veux pas y aller le premier ». Et donc, ouais. tout le monde regarde à droite et regarde à gauche, et puis ils disent, t'y vas toi d'abord, non, toi d'abord, et c'est un peu la raison pour laquelle, aujourd'hui, on est dans un environnement complètement bloqué. Parce que, d'un côté, tu as la FTC, donc la Federal Trade Commission, qui va bloquer les grosses ventes, du genre Figma, du genre d'autres qui ont été bloquées, et après, t'as pas d'IPO. Donc ça veut dire que, aujourd'hui, nous, investisseurs, on n'a pas de moyen de retourner des profits à nos investisseurs et donc nos investisseurs n'investissent plus. Et donc, tu vois, ça commence à gripper, en fait, tout l'écosystème. Donc, on a besoin de sortie et on espère que l'IPO de Reddit se passe bien.
Et du coup, si ça se passe bien, si les sorties se passent bien, toi, ce que tu regardes et que je n'avais pas compris, c'est que ça relance le cycle et du coup, les investisseurs seront plus prêts à remettre de l'argent pour réinitier ça de ce côté-là aussi. Ce n'est pas juste les sorties, c'est aussi les investissements.
Les sorties, en fait, donc moi, je lève de l'argent auprès d'investisseurs institutionnels. 10 ans plus tard, parce que ça met 10 ans à ce qu'une boîte se construise et sorte, je leur retourne énormément d'argent par rapport à ce que j'avais investi initialement, quand ça marche bien. Et puis, ils prennent ces profits et ils les réinvestissent dans nos prochains fonds et dans d'autres fonds. Et donc, ça conserve donc l'écosystème d'investissement tel qu'on connaît aujourd'hui. Et le jour où il y a moins d'argent disponible des investisseurs institutionnels, tu vas avoir moins de fonds, donc tu auras moins de start-up. Et donc, ça bloque un peu, ça grippe le système d'innovation, quoi.
Je comprends, j'aimerais en parler encore plus longtemps, mais il est déjà 6h03 ici. Je pense que LJ va venir te taper sur la tête.
J'ai déjà eu le ping, ils m'attendent depuis 3 minutes.
D'accord.
Donc je dois rejoindre mon...
Nous excuser.
Je rejoins mes partenaires pour prendre des décisions d'investissement. Voilà.
Tu les salues de Paris. Merci beaucoup, Jeff. Oui.
Y compris une discussion du plus gros tour d'investissement que j'ai jamais fait, où je pense investir 25 millions dans une boîte que j'aime beaucoup. que j'ai jamais fait.
D'accord, 25 millions, ça commence à devenir sérieux. Bon, évidemment, tu ne me diras pas de laquelle il s'agit, mais je suivrai les annonces. Quand...
Mais le jour où ça se passe, on en parlera sur l'envoi des boutiques.
D'accord, ok, très bien. Ça marche. Merci beaucoup, Jeff, à Jeff sur Twitter. Passe une bonne soirée, une bonne journée, et on se retrouve dans quelques semaines.
Ça marche, grosse bise.
Ciao, ciao. Donc, Jeff part faire ses, son travail. Moi, je vais enlever son... Je vais y arriver. Non, c'est pas celui-là. Son image. Et je vais continuer avant la fin de l'émission. Il y a quelques news que je voulais évoquer également. D'une part, le fait que Apple a confirmé qu'ils autorisaient le fait d'installer des applications dans l'Union européenne, hein, évidemment, c'est de ça qu'on parle, dans l'Union européenne, d'installer des applications directement depuis un site web. Vous vous souvenez que c'était une question avec le DMA. Apple autorise les App Store tiers, mais la question était, est-ce qu'ils vont autoriser à installer directement depuis un site web une application? C'était pas le cas dans leur premier plan, mais discrètement, ils ont annoncé il y a quelques jours que ça serait possible. Alors évidemment, il y a plein d'étapes à passer, plein de petites pop-up sur lesquelles il faut confirmer. Si, si, je suis sûr, je sais que c'est dangereux, je sais que Apple n'est pas garant, machin. Mais c'est possible, donc depuis un site web, on peut installer une application. Les conditions restent drastiques. Il faut que le développeur ait fait notarize, donc notariser son app, qu'elle soit vérifiée par Apple pour des questions de sécurité. Il faut que le développeur soit un développeur avec Apple depuis 2 ans et qu'il soit in good standing, ce qui veut dire qu'il doit ne pas avoir fait d'infraction, ce genre de choses. OK, mais c'est possible. Un développeur ne sera pas obligé de passer par un App Store pour proposer son application directement sur son site web. C'est une information quand même très importante. On me demande dans la chatroom si c'est une PWA, une Progressive Web App. Non, on parle bien d'applications tout court classiques. Les PWA seront également disponibles, mais ça, on en avait déjà parlé. Donc ça, c'est une news importante. Une autre news extrêmement importante concerne, là aussi, la législation européenne et spécifiquement Facebook. Facebook, vous le savez, a implémenté le DSA de manière, d'une manière qui n'a pas beaucoup plu aux utilisateurs, c'est-à-dire que ils ont le DSA, c'est le GDPR, ils l'ont implémenté en proposant aux utilisateurs de continuer à utiliser le service avec pub ou alors de payer. Et on est à 12 € par mois, quelque chose comme ça. Et donc, on a tous eu la pop-up, si on utilise Facebook, est-ce que vous voulez continuer à utiliser avec pub ou payer? Et à ce moment-là, la grande question qui s'est posée, c'est est-ce que Facebook a le droit d'implémenter la loi de cette manière ou est-ce qu'il devrait proposer une version de leur service avec pub, certes, mais sans tracking? C'est ça la question. Hein. La pub n'est pas interdite, mais le tracking, l'utilisation des données pour ciblage, elle, peut être refusée par les utilisateurs. Donc, Facebook a Meta a choisi de l'interpréter en disant on propose avec ciblage ou en payant. Et beaucoup d'autres services, hein, vous le savez, dès que vous allez sur un site web, vous proposent d'avoir le site gratuitement sans payer. Il y a une exception à ça, c'est les sites, certains sites de presse, comme Le Monde, dont on parlait tout à l'heure, mais pas que, hein, il y en a plein, qui vous disent soit vous vous abonnez, soit vous acceptez la pub. Et bien donc, on se disait, Facebook fait pareil finalement, pourquoi pas? Il se trouve que un certain nombre de députés européens ont envoyé une lettre ouverte à Mark Zuckerberg pour lui dire « cette implémentation ne nous convient pas ». Cette implémentation ne nous convient pas pour différentes raisons. D'une part, le montant est trop élevé, ce n'est pas un montant raisonnable. Mais l'argument que j'ai trouvé vraiment intéressant, parce que c'est l'argument la réponse à la question que je posais à ce moment-là, c'est est-ce que l'Union européenne a le droit d'imposer à Facebook le fait d'offrir le site sans ciblage et gratuitement ? C'est une question qui est légitime, hein, d'autant plus que, comme je le disais, il y a des sites qui imposent le ciblage ou l'abonnement. Eh bien, ce que dit l'Union européenne, c'est que on a le droit de proposer un abonnement pour de proposer une compensation financière pour assurer ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du site. Et c'est une formulation que je ne connaissais pas, qui est donc mise en avant par les députés, qui fait peut-être partie de la loi, mais qui est intéressante parce que ce que ça dit en filigrane, c'est si vous faites des bénéfices énormes, eh bien vous ne pouvez pas demander en plus des abonnements. Et ça permet d'imposer à Facebook une chose qu'on ne va pas forcément imposer à un site de presse qui déjà a du mal à fonctionner. Donc si on dit « vous pouvez imposer un abonnement pour assurer le fonctionnement de votre site », parce que si vous n'avez pas cette entrée financière, le site ne peut pas fonctionner, bah, ça légitimise pour les sites de presse, et pour Facebook qui fait énormément de bénéfices, bah, ça ne le rend pas possible. Donc cet argument m'a paru extrêmement intéressant et je voulais vous le mettre en avant. Et donc ça répond à cette question qui est « est-ce que l'Europe va accepter ce qu'a mis en place Facebook ?» Alors, je dis ça répond à cette question, pas tout à fait. C'est pas que les députés ont lancé une procédure légale pour imposer à Facebook de changer ses pratiques. C'est simplement qu'ils ont envoyé une lettre ouverte à Zuckerberg. Enfin, Zuckerberg, il l'a envoyé à Nick Clegg, peu importe, pour parler de ce problème. Est-ce que si Facebook ne plie pas, et je pense qu'ils n'auront aucune raison de plier sans contrainte légale, si Facebook ne plie pas, ils vont essayer de lancer une procédure au Parlement ou ailleurs, peut-être une procédure dans d'autres instances, c'est à voir, mais en tout cas, la direction, là, elle est donnée. L'autre chose que je voulais dire, c'est que la newsletter va être plutôt cool. Cette semaine, il y a trois sujets tech que je vais inclure en plus des trois sujets de la semaine. Hein. Comme vous le savez, dans la newsletter, il y a chaque semaine les trois sujets tech que je couvre dans la première partie avec des liens pour explorer la chose. C'est pratique quand vous n'avez pas eu le temps d'écouter l'émission ou ce genre de choses, ou si vous voulez aller plus loin. Mais il y a aussi des liens en plus qu'on n'a pas le temps de traiter, comme par exemple un podcast qui est super bien, qui s'appelle Code Source, qui est le podcast du Parisien, d'Actu du Parisien. Et ils ont un épisode dans lequel ils parlent de Xavier Niel et de son parcours, que j'ai trouvé super intéressant. Et je vais vous mettre le lien vers cet épisode spécifiquement dans la newsletter. Je vais aussi vous mettre le lien vers un article du Financial Times qui parle du parcours d'Armin Sami, qui a développé un site pour essayer de prouver à Uber Eats qu'ils faisaient des erreurs avec leur algorithme. Et à travers ça, c'est un témoignage de la manière dont ça se passe quand on est un livreur pour Uber Eats ou pour toutes ces boîtes qui marchent par algorithme et des difficultés que ça pose de travailler avec une boîte noire dont on n'a quasiment pas de réponse. C'est assez intéressant d'avoir toujours ce genre de retour. Je vous encourage à aller lire, ça sera dans la newsletter. Et enfin, toujours dans ce cadre-là un petit peu, d'aller explorer le quotidien de personnes qui sont dans ces domaines tech, il y a un article de CNBC qui explore le quotidien des gens qui ont été licenciés dans le monde de la tech. Vous savez qu'il y a déjà eu, alors il y a eu 260 000, je crois, licenciements en 2023. Il y en a déjà eu 50 000 dans la tech spécifiquement en 2024. Et il y a des témoignages, justement, qui insistent sur un fait dont on parlait il y a quelques temps, à plusieurs reprises. Quand tout le monde se fait dire en même temps, c'est d'autant plus dur de trouver un boulot derrière parce que tout le monde en cherche. C'est hyper intéressant aussi. Donc, je vous encourage à aller regarder ça. Ça fait beaucoup de liens, beaucoup de choses intéressantes à découvrir et je vous laisserai aller les découvrir par vous-même sur la newsletter, à laquelle vous pouvez vous abonner soit en allant sur notepatrick.com, soit en regardant dans les notes de l'émission. Et je vous recommande de ne pas tarder puisque vous pourrez du coup ne pas rater les newsletters de cette semaine et des autres. Et justement, puisqu'on parle de newsletters, je vais parler dans l'after show de newsletter et de pourquoi elles sont elles pop de partout en ce moment. Vous allez voir que ça a à voir avec beaucoup de choses, avec le trafic, avec l'audience, avec les réseaux sociaux, avec les algorithmes. C'est un sujet qui est assez intéressant. Ça sera pour les patriotes. Mais juste là, on va s'arrêter et je vais vous encourager à devenir patriote. Du coup, vous voyez, tout est lié, newsletter, after show, patriote, patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. Vous le savez, c'est comme ça que l'émission existe et c'est grâce à vous que je peux continuer à la faire et garder cette indépendance qui m'est chère. Donc patreon.com/rdvtech si vous souhaitez soutenir l'émission. Si vous souhaitez me suivre, je suis NotePatrick un petit peu partout. Il y a les liens vers tous mes réseaux sociaux et bien sûr les lives sur Twitch, la newsletter comme je le disais, le Patreon, etc. Merci à vous tous et à vous toutes de me soutenir et d'écouter l'émission, que vous me souteniez ou pas d'ailleurs, j'apprécie beaucoup. Merci de répandre la bonne parole, de parler à vos amis, vos collègues, votre famille du rendez-vous tech. Si les gens veulent comprendre la tech, c'est l'émission qu'il faut écouter. Et on sait à quel point il est important de comprendre la tech puisqu'elle influence tellement notre monde. Et je vous retrouve dans une semaine pour continuer à parler d'eux et à comprendre la tech. Et ça sera la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. À très très vite. Ciao ciao.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.